Vous écoutez À suivre sur Arte Radio.
Là, j'ai un sonomètre et je mesure 35 à 40 décibels.
Printemps 2024, Lille.
C'est vraiment très très calme.
4h30 du matin.
Voilà, on s'est levé tôt, mais le bruit va augmenter petit à petit. En journée, quand il y a beaucoup de voitures, on est à 60, facilement 60 décibels de niveau de bruit.
Olivier Pichard est responsable d'études au CEREMA. Sa spécialité, l'adaptation des animaux aux contraintes urbaines.
Dans des espaces assez bruyants, comme la ville, il a été montré que les oiseaux chantent plus tôt que d'habitude. On s'aperçoit que même plus de 2h30 avant l'heure du lever du soleil, les oiseaux chantent déjà sur la ville de Lille. Donc voilà, c'est une sorte de stratégie d'adaptation des oiseaux par rapport au bruit pour pouvoir mieux se faire entendre.
Le chant de l'extinction.
Il n'y a que 4% du territoire européen où vous avez un environnement sans bruit humain.
Une série documentaire de Jeanne-Marie Desnos, réalisé par Charlie Marcellet.
Pour l'instant, il fait encore complètement nuit, mais on voit au loin là les toutes premières lueurs du jour.
Troisième et dernier épisode, plier pour ne pas rompre.
On va aller au cœur de la citadelle de Lille, donc où on a vraiment les ambiances sonores les plus sympathiques, avec justement le chorus matinal des oiseaux.
Au petit matin, les mélodies voyagent plus loin. Frais, l'air est plus dense, alors on chante.
Donc là, on est justement à l'horaire où on est entre le chant des espèces nocturnes, donc on peut encore entendre de la chouette hulotte ici sur le parc de la citadelle, et les toutes premières espèces de jour.
La chouette, on l'entend là ?
Là, je l'entends plus là. Pour la ville, c'est un des espaces les plus riches, notamment aussi pour les chauves-souris, hein, puisqu'il y a, comme il y a une citadelle, il y a des espèces de chauves-souris qui hibernent dans les souterrains de la citadelle. On entend le pigeon ramier. Pour le reconnaître, il y a un truc assez simple par rapport à la tourterelle, parce que souvent les gens le confondent, c'est le nombre de syllabes. Avec le pigeon ramier, on peut faire « je suis un pigeon », alors que la tourterelle, c'est « tourterelle, tourterelle ». Donc là, c'est ce qu'on entend là. Je suis un pigeon, je suis un pigeon. Je suis un pigeon. Nous, on a une gamme d'audition de 20 Hz à 20 000 Hz. Pour certaines espèces, c'est plus restreint. Pour d'autres, comme chez les chiens, par exemple, ça peut être beaucoup plus étendu. Donc nous, il y a certains bruits qu'on peut entendre de manière très forte, alors que d'autres espèces vont être sur des fréquences qu'elles n'entendent pas. Ou au contraire, nous, on a des fois l'impression que l'ambiance est très très calme, alors qu'en fait, il y a des ultrasons qui sont très forts. Et voilà, justement, alors ça, c'est un... Voilà, donc là, on a... un camion avec une grue qui arrive. Donc je ne sais pas si c'est pour faire des travaux ici. Elle vient faire demi-tour, donc je prends... L'exemple de bruit. Un bel exemple de bruit là, donc on a été obligé d'arrêter de se parler justement. Voilà, c'est un bon exemple de masquage sonore. Donc comme je disais, dans le bruit, il y a différents aspects. Le premier, c'est le masquage sonore, c'est lorsque en fait ce bruit vient complètement couvrir notre voix ou le chant des oiseaux, et donc à ce moment-là, on ne peut plus communiquer. Donc quand c'est pas trop répété, ça peut être supportable, mais quand c'est répété tout le temps, ça peut devenir insupportable et les espèces peuvent quitter le territoire. dans les espaces urbains, qu'on a déjà en fait des espèces qui ont une certaine tolérance du bruit, puisque les espèces les plus sensibles ont déjà quitté la ville. Certaines espèces vont pouvoir chanter dans des fréquences assez aiguës. Par exemple, les fauvettes à tête noire, là, le merle, on est autour de 6000-7000 Hz, alors que le bruit urbain, on va être plutôt en dessous de 5 à 6000 Hz. Mais par contre, des espèces qui vont vocaliser, qui vont chanter dans des fréquences beaucoup plus basses, elles vont être très gênées. Donc c'est le cas de des espèces plutôt de forte taille. Ça peut être le coucou, par exemple, qui chante plutôt dans des fréquences assez basses. Et donc ces espèces-là vont être d'autant plus gênées par ce masquage sonore dans l'espace urbain.
On baigne dans le brouillard. Ici, maintenant, partout, tout le temps. Aucun territoire n'est protégé. Même en plein cœur de la forêt des Vosges, écosystème de l'audio-naturaliste Marc Namblard.
Il y a quelques années, lorsque j'allais sur le terrain pour enregistrer un animal, une ambiance, enfin peu importe, j'étais la tête en l'air pour repérer les avions qui arrivent et au bout d'un moment, j'avais mal au cou. C'était vraiment une douleur qui était quasiment quotidienne, quoi. Donc, ça n'avait pas de sens, quoi. C'était complètement dingue.
Nouvelle méthode, Marc Namblard dépose ses micros au pied des arbres pendant plusieurs jours.
Ça m'a petit à petit ramené aussi sur le terrain, mais de manière un petit peu différente, c'est-à-dire davantage de temps à observer, à relever des indices pour anticiper des événements. Un travail un peu de pisteur, en quelque sorte.
Reste à trier les téraoctets, en extraire quelques minutes épargnées.
Les animaux ont plusieurs stratégies d'adaptation, ce qu'on appelle l'effet Lombard. C'est un orthophoniste du 19e donc qui a décrit un peu ce phénomène-là qu'on retrouve aussi chez l'humain. C'est le fait d'augmenter en intensité sonore la communication. Donc, on retrouve ça chez les mésanges charbonnières, par exemple, ça a été démontré. Il y a décalé en fréquence, c'est-à-dire que les espèces qui vont être dans du bruit vont être capables de chanter plus aigu. C'était montré même chez la mésange charbonnière qu'elle était capable, à la fois, quand il y a une fréquence grave, de chanter plus aiguë pour se faire entendre, mais inversement, si on met un bruit qui peut être dans ces gammes de fréquences, elle peut aussi diminuer son chant de façon à éviter justement cet aspect de masquage sonore. Voilà, donc chanter plus fort, décaler en fréquence. L'autre adaptation aussi, c'est de répéter le signal. Donc, ça a été montré chez le troglodyte où l'espèce est capable de répéter, d'augmenter la diversité des motifs. Il y a aussi une autre capacité d'adaptation, donc on a parlé tout à l'heure, les espèces vont décaler leur heure de début de chant. Ça a été montré aussi aux abords d'aéroports, chez la fauvette à tête noire, chez la mésange, chez le rouge-gorge, chez le merle noir. Dans les grenouilles vertes, là.
Ça, les grenouilles.
Ça a l'air assez grave. Comme on a tous ces fossés autour des remparts, on a des espèces de milieux aquatiques comme des poules d'eau, comme la rousserolle et farvate, pas très farouche, et on peut l'approcher, là, voilà, on la voit ici, elle est à quoi, à 4-5 mètres de nous, là. Donc là, on est, il est 5h41, et là, on est 5 minutes avant l'heure légale du lever du soleil, voilà, elle commence à chanter. Dans les stratégies qu'ont les espèces pour bien se faire entendre, c'est aussi la modulation, donc c'est un chant qui est très varié. C'est un peu ce qu'on appelle, nous, l'effet aussi cocktail party, quand on est dans un environnement assez bruyant, type cocktail, où en fonction de la modulation de notre voix, on va pouvoir se faire entendre de manière plus intelligible que si on était une voix monocorde. L'avantage des fréquences graves, donc, c'est qu'elles peuvent porter très loin, mais par contre, elles sont assez difficiles à localiser. Les fréquences aiguës, c'est beaucoup plus facile à localiser. Donc il y a ça aussi comme stratégie, c'est que si une espèce module entre les graves et les aigus, elle a à la fois la possibilité de porter un son assez loin, mais aussi de pouvoir se faire localiser plus facilement. Voilà, c'est les principales adaptations. Ça dépend aussi des espèces. Hein. C'est un peu plus différent chez les amphibiens ou les insectes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément la même capacité d'adaptation que les oiseaux de pouvoir augmenter les gammes de fréquences. Mais il va y avoir une sorte de sélection génétique par la présence justement de bruit. Et donc il y a des populations qui sont sélectionnées parce qu'elles vont chanter plus aiguë et donc elles vont tirer un bénéfice de ces fréquences plus aiguës dans un milieu assez bruyant.
L'adaptation au bruit, une contrainte parmi tant d'autres. En anthropocène, les pollutions sont multiples. Lumineuses, chimiques, plastiques. Nouveaux paramètres, le dérèglement climatique.
Alors je vis dans un petit village qui s'appelle Mortagne.
Marc Namblard.
Qui est perché à 500 mètres d'altitude, à mi-chemin entre Épinal et Saint-Dié-des-Vosges. On est un peu dans la zone de transition entre la forêt de plaine, on va dire, hein, et puis la forêt de montagne. On entend rarement la même chose au même endroit deux jours de suite. Il y a des variations liées aux saisons, liées aux conditions météo, évidemment, aussi, donc en fonction de la température de l'air, en fonction de l'humidité, en fonction... Voilà, on va pas forcément entendre les mêmes sons, ou on va pas les percevoir de la même manière. Après, j'ai quand même repéré, autour de chez moi, une évolution qui n'est pas vraiment liée à ces rythmes saisonniers. Il y a des espèces qui sont apparues ou qui ont occupé beaucoup plus de place dans l'environnement sonore. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué avec certains insectes, par exemple. Les grillons, on ne les entendait absolument pas dans la montagne vosgienne il y a encore quelques années. Enfin, on les entendait dans les plaines. Mais dès qu'on montait un petit peu en altitude, les grillons champêtres étaient vraiment très peu présents. Et puis lorsqu'on allait sur les prairies les plus élevées, ils n'étaient absolument pas présents. Aujourd'hui, ils sont présents à toutes les altitudes. Donc ça c'est vraiment un marqueur pour moi des changements climatiques. Ça me paraît évident. Il y a des espèces d'oiseaux également qu'on entendait... en plaine, qui commence à remonter en altitude. Je pense par exemple au pivert. Je me souviens que lorsque je suis arrivé dans les Vosges, en montagne, je n'entendais pas le pivert. Je l'entendais en plaine, je l'entendais dans les forêts autour d'Épinal. Mais dès que je prenais un petit peu d'altitude, j'entendais le piquet-pêche, j'entendais le pique-noir. Mais le pivert, il n'était pas présent. Donc il y a vraiment un glissement de certaines espèces, en tout cas, en altitude. Alors, au niveau des arbres, comme le chêne, comme le charme, qu'on voit monter aussi en altitude, petit à petit, il progresse. Le châtaignier aussi. Ça a une incidence sur les animaux qui y vivent, évidemment. Il y a des espèces qui ont des exigences en termes d'habitat et qui vont devoir remonter en altitude pour trouver des habitats ou des structures forestières qui leur conviennent ou carrément qui risquent de disparaître à terme, quoi. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a, du fait de la transformation des milieux, une sorte d'uniformisation des ambiances sonores. Il y a des espèces qui sont plus généralistes que d'autres, ubiquistes que d'autres, et qui vont pouvoir s'adapter plus facilement aux modifications des habitats. Le rouge-gorge, on va l'entendre partout. La mésange bleue, on va l'entendre un petit peu partout. Il n'y a plus autant de diversité qu'autrefois. C'est vraiment quelque chose qu'on peut constater malheureusement aujourd'hui de manière très nette, quoi.
On pourrait dire, c'est bon, pas de problème, les espèces s'adaptent, elles vont vocaliser plus fort, elles vont émettre des fréquences plus élevées, puis ça va aller. En fait, non. Chanter plus fort nécessite plus d'énergie, et donc ça diminue la vitalité. Les espèces ont moins de ressources énergétiques à consacrer à leur reproduction, à consacrer à l'élevage des jeunes, à consacrer à leur fonction vitale. Les mâles qui sont les plus beaux chanteurs vont être préférés en général par les femelles. Chez certaines espèces, par exemple comme le coucou, généralement le coucou, on a l'habitude de l'entendre qui fait coucou, coucou, avec deux notes. Et bien en fait, quand il y a une forte pression de sélection avec une nécessité de séduire les femelles, il est capable de faire trois notes. Alors, il fait coucou, coucou. Les femelles choisissent les mâles qui chantent le mieux parce que ça veut dire qu'il y a une richesse génétique. C'est en fait une marque de bonne santé, de bonne vitalité. En présence de bruit, il y a une moins bonne sélection des plus beaux chanteurs, puisque le bruit vient effectivement masquer les capacités vocales des mâles. Les femelles choisissent des partenaires de moins bonne qualité. Et donc en cascade comme ça, ça peut aussi amener à une moins bonne capacité de reproduction sur la durée. On est exactement au même endroit que ce matin, que tout à l'heure. Donc, sauf qu'il est maintenant 8h du matin. Et donc il y a la pleine activité des véhicules. Et on est effectivement là mesuré à 70 décibels environ. Ici c'est quand même très bruyant. On est on maximise le bruit parce qu'on est sur un croisement de deux grands axes routiers. Avec des feux, donc on a des bruits de freinage, on a aussi. Une diversité de fréquences parce qu'en bruit de freinage, on est plutôt sur des fréquences assez aiguës. On a des camions, on a des voitures, donc il y a un panel de fréquences différentes, etc. Donc évidemment, là, c'est pas du tout un lieu favorable pour les communications acoustiques. D'ailleurs, on n'entend aucun oiseau, il n'y a aucune communication possible, quoi. La première des choses, c'est évidemment de prendre conscience de l'impact du bruit sur la biodiversité. Et ensuite, c'est autant que possible de réduire cette pollution sonore en limitant la vitesse de circulation, en privilégiant évidemment les véhicules électriques plutôt que les véhicules thermiques. Trouver la meilleure adéquation entre les activités humaines, mais aussi la connaissance des espèces pour limiter autant que possible l'impact du bruit sur ces espèces-là. Dans les parcs et jardins, sachant que la communication sonore, au moins pour les oiseaux, au mois de mai, elle est la plus importante vers le lever du soleil, et bien c'est des périodes où on va éviter de faire des activités bruyantes à ce moment-là. De même que si on veut organiser un festival de musique, on va éviter de faire un festival de musique en pleine période de reproduction et en particulier dans des espaces où il y a des espèces sensibles au bruit. Mais en tout cas, tout ce qu'on fera pour la faune sera globalement favorable aussi aux humains.
En faisant un pas de côté pour vraiment prendre le temps d'observer, que ce soit avec les yeux ou avec les oreilles, on commence à cerner toutes les variations des manifestations de la vie. C'est comme ça qu'on se rend compte que chaque espèce est vraiment différente, a des particularités qui, au bout d'un moment, finissent par nous sauter aux yeux et aux oreilles. Je pense aux animaux qui produisent des sons qui peuvent être un peu au seuil de notre perception. Des petits oiseaux comme le roitelet, par exemple. Des grimperons. Qui sont accessibles quand même à l'oreille humaine, mais quand même très aigus. Ça peut être aussi des animaux qui émettent des sons simplement plus faibles, de plus faible intensité. Ça nécessite une attention. On détecte des présences qu'on ne détectait pas auparavant. Je m'en suis rendu compte, par exemple, j'ai eu un déclic. Un jour, en me promenant, début du printemps, dans une forêt que je fréquente, là, pas très loin d'ici, j'entends ce petit tambourinage sur les feuilles mortes. Ça s'entend très bien à l'oreille, à plusieurs mètres de distance. Des araignées qui tambourinent des feuilles mortes, des lycoses qui vivent au niveau de la litière forestière et qui vont chasser comme ça dans les feuilles mortes. J'ai compris tout de suite que j'avais affaire à ces araignées parce que j'avais déjà entendu un enregistrement. Et par curiosité, je me suis replongé dans les enregistrements que j'avais réalisés les années précédentes dans les mêmes lieux. Je me suis rendu compte que ces tambourinages d'araignées étaient déjà présents. Seulement, je ne les avais pas repérés, quoi. Ils ne faisaient pas partie du paysage sonore que je me construisais à l'époque. Et là, j'ai vraiment eu un déclic. C'est là que je me suis rendu compte que l'écoute, c'est vraiment quelque chose qui se construit dans le temps, quoi, et qui évolue.
Permettre à des espèces qui sont déjà présentes de mieux vivre dans l'environnement dans lequel elles sont, mais aussi éventuellement à des espèces qui avaient déjà quitté les lieux de revenir.
La sixième extinction ne revient pas seulement à brûler la bibliothèque de l'évolution et tous les ouvrages du passé. Elle revient à brûler avec eux les poètes. Les poètes à venir, c'est-à-dire la possibilité pour chaque forme de vie d'en produire d'autres, aux aptitudes, aux arts vitaux, aux pouvoirs encore inconnus. On ne brûle pas seulement ce qui est arrivé, mais tout ce qui pourrait arriver. Manière d'être vivant, de Baptiste Morisot.